La villa romaine de Sencelles. La villa romaine de Sencelles est située à une certaine distance de la ville, sur l'autre rive du Francolí, dans la commune de Constantí, à 4 km de Tarragona. Vous pourrez y aller en voiture particulière. En 1931, elle a été déclarée monument historique et artistique et elle fait partie de l'ensemble archéologique de Tarraco, reconnu patrimoine mondial par l'UNESCO. Le bâtiment s'érige sur un site qui avait déjà été occupé par une villa romaine depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, une maison de campagne qui a une longue histoire, car elle fut habitée de manière ininterrompue depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, en passant par diverses réformes. La première a lieu au 1er-2 siècle après Jésus-Christ et la deuxième au 4e siècle. Par la suite, la grande salle d'un plan circulaire, conservée intégralement, fut transformée déjà à l'époque médiévale en église de Saint-Barthélemy et finalement en ferme. De toute cette évolution, nous nous centrerons sur la description des vestiges du IVe siècle, car la totalité de ce que l'on peut visiter aujourd'hui appartient et représente également le moment de plus grande splendeur de sa longue vie. Entre les années 1959 et 1978, des membres de l'Institut archéologique allemand réalisèrent des travaux de recherche archéologique, de nettoyage, de restauration, en mettant définitivement en valeur ce magnifique et singulier monument. La villa romaine, construite vers la moitié du IVe siècle, à laquelle appartiennent les vestiges actuellement visibles, est structurée en bâtiment allongé d'environ 90 mètres de long dont on connaît 21 pièces alignées, orientées au midi, devant lesquelles se trouvait probablement un portique. L'absence des structures agricoles destinées à l'exploitation des champs surprend, des presses, des entrepôts, etc. En entrant dans le site, vous trouverez des constructions conservées de manière précaire, en partie protégées par un abri. Ce sont deux ensembles thermaux, c'est-à-dire des bains qui disposent de salles avec des petites piscines d'eau chaude et froide. À continuation, se trouve la partie la plus spectaculaire. Un bloc composé de deux salles sur un plan central. La première est quadrilobée et ne conserve pas sa toiture d'origine. Dans la deuxième, brille sur toute la surface une coupole décorée de magnifiques mosaïques qui ont fait le succès du monument. Lorsque vous entrez de l'extérieur, le regard s'oriente immédiatement vers la coupole et sa riche décoration. Vous commencerez par la partie inférieure. Si vous vous placez dans l'entrée, en regardant en face, sur l'une des fenêtres, vous trouverez une scène assez abîmée, sur laquelle figurait un groupe de personnages dont il ne reste pratiquement que les têtes. C'est le point central de toute cette partie qui représente un épisode de chasse, d'une manière plus ou moins continue, sur environ 33 mètres de long. Au milieu, vous trouverez la seule tête qui regarde de face. C'est un portrait du Dominus, le maître, le propriétaire. À partir de là, sont développées deux successions de scènes, une à droite et l'autre à gauche, qui s'achèvent à l'extrémité opposée, juste au-dessus de la porte d'entrée où se trouve représenté un ensemble de bâtiments que l'on peut identifier comme étant une villa romaine. À gauche du groupe de personnages, il y a un aide de camp avec deux chevaux. À la suite, des valets qui portent des filets et des gordins, deux cavaliers qui poursuivent des cerfs vers un filet déjà tendu et le transfert de la proie à la villa. À droite du groupe principal, nous trouvons à nouveau un aide de camp avec un chien. Des valets transportant des gourdins et des filets sur des animaux de charge. La rencontre avec le sanglier et le retour à la maison. La partie supérieure offre 16 compartiments séparés par des colonnes salomoniques qui contiennent des scènes chrétiennes extraites de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour commencer la description, il faut que vous vous placiez à nouveau dans l'entrée de la salle, en regardant ce groupe principal de personnages à la tête duquel se trouve le Dominus, juste au-dessus de la fenêtre. Le tableau principal représente le bon pasteur, une claire allusion au Christ. À la droite du bon pasteur se trouve l'arche de Noé. À la suite, la scène la plus développée de ce registre, dans laquelle on voit à gauche deux personnages richement parés, un buste de décelle d'or et à la droite trois personnages. Cela peut correspondre à l'épisode biblique de trois jeunes Hébreux refusant d'adorer l'idole que leur présente Nabuchodonosor ou bien d'audience d'Hérode aux trois mages d'Orient. La scène suivante, presque disparue, c'est la résurrection de Lazare. et la dernière reconnaissable est la scène de trois jeunes gens dans le four, en guise de châtiment pour avoir refusé d'adorer l'idole païenne. Évidemment, l'éventuelle scène de Nabucodonosor et celle des trois jeunes gens dans la forge évoquent d'une certaine façon le martyr de l'évêque de Tarraco et de ses diacres Augure et Euloge, qui étaient trois et avaient été condamnés à mourir sur le bûcher seulement un siècle avant l'élaboration de cette mosaïque. À gauche de la scène centrale du Bon Pasteur, vous trouverez un bateau avec la voile dehors et deux marins. À la suite, se trouve un tableau presque perdu, auquel suit un autre où l'on voit des jambes croisées qui appartiennent à Jonas, se reposant sous un calebassier. S'en suivent deux tableaux partiellement conservés, avec des scènes non identifiées, et ensuite, une scène dont se sont conservés les bras d'une figure avec une attitude de prière et un lion. Dans le dernier tableau, presque perdu, figurent Adam et Ève. La partie supérieure se trouve très détériorée, en ayant perdu la plupart des tesselles. Elle se trouve divisée en 8 tableaux. Ceux de plus petite dimension représentent les 4 stations de l'année. 4 jeunes qui portent une plante ou un fruit, caractéristiques du temps qu'ils représentent. Intercalées avec les saisons de l'année, se trouvent 4 scènes que l'on a appelées « scènes avec foudre », qui malheureusement se trouvent très mutilées. Dans chacune apparaît représenté un personnage assis sur un trône, en regardant de front. Finalement, du médaillon zénital existant, ainsi que des tableaux avec les personnages intronisés, sur un fond de tesselle d'or, il ne reste que 2 têtes, le reste ayant disparu. L'une des plus grandes questions sur ce monument est d'identifier son destinataire, c'est-à-dire le dominus de la scène de chasse. Plusieurs chercheurs optèrent déjà dans les années 30 pour l'identification du monument comme étant un mausolée ou une tombe monumentale. Helmut Schlunk, après sa restauration, conclut qu'il s'agissait de la tombe de l'empereur, tandis que d'autres défendent qu'il s'agit de la tombe d'un membre de la haute noblesse ou d'un évêque. Le débat scientifique ne fait qu'étayer l'immense intérêt pour cette mosaïque, d'une grande qualité artistique et technique, qui fait du monument l'un des ensembles paléochrétiens les plus importants de l'ensemble du monde romain.